c'est notre joie à mon épouse et à moi-même de vivre cette convention avec vous. Nous sommes très reconnaissants pour ce rendez-vous pour lequel Dieu nous a vraiment préparés. Nous nous réjouissons aussi pour le sujet que nous allons aborder qui m'oblige à faire d'emblée un certain nombre de remarques préliminaires. Et en fait, cette soirée sera essentiellement consacrée à ces remarques préliminaires, à cause du sujet très important, mais aussi par certains aspects très particuliers que nous abordons. Pour introduire ce que nous allons partager, nous allons lire, et je vais en tout cas lire pour vous, dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 16, les versets 5 à 15, versets qui sont d'une solennité particulière, même si tout ce qui est sur les lèvres du Seigneur Jésus est d'extrême importance. Ces versets, néanmoins, sont d'une solennité particulière parce qu'ils s'inscrivent dans ce que nous pourrions appeler le testament du Seigneur Jésus, les dernières paroles, celles que l'on recueille sur le lit d'agonie de quelqu'un qui va partir. Et vous savez combien, dans ces moments très très particuliers, chaque mot revêt un caractère extrême. Eh bien, Jésus, d'une manière toute particulière, a ouvert son cœur à son cercle le plus proche, celui avec lequel il avait tissé des liens particulièrement étroits durant 3 années, et qui allait se disperser dans la trahison, dans la peur, dans le reniement, dans toutes sortes de sentiments terribles et contradictoires, et il avait des choses d'une extrême importance à partager avec eux. Donc, lisons-les en prenant conscience de ce cadre dans lequel ces mots ont été prononcés par le Seigneur Jésus. Jean 16, versets 5 à 15. Jean 16, 5 à 15. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter ou les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et puis, bien entendu, nous ne pouvons pas contourner cet impératif qui est le thème même que nous allons développer dans la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, Éphésiens 5, pour le moment, nous l'extrayons de son contexte pour une simple lecture. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. « Ne vous enivrez pas de vin. » C'est de la débauche, c'est du dérèglement. Nous verrons le sens de ce terme. « Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Je l'ai laissé entendre dès les premiers mots, il y a quelques instants. Le sujet nécessite un labourage préparatoire. Parce que c'est un sujet qui pour beaucoup est explosif, controversé, ce qui pourrait paraître paradoxal si nous ne nous souvenions pas que nous sommes en face d'un sujet très important, fondamental, concernant, disons-le, la personne de Dieu. Et donc, nous ne devons pas nous étonner que la puissance des ténèbres se déchaîne pour caricaturer, pour tromper, pour désorienter, pour faire dévier sur un thème d'une telle importance. Ceci dit, j'ose croire que pas un seul d'entre nous n'est venu ici pour cette convention sans avoir le désir de viser le bon objectif pendant cette convention. Il n'est pas question de nous retrouver ensemble pour que tel ou tel d'entre nous soit à la recherche de munitions, pour tirer à coups de kalachnikov évangélique sur ceux dont les convictions pourraient différer des nôtres sur ce sujet brûlant et très important. Nous ne sommes pas réunis pour cela. Et en aucun cas, ce que nous allons partager dans mon ton et dans mes propos ne s'inscrira dans une sorte de climat de guerre, de quelconque esprit de supériorité, de mépris, parce que nous ne sommes pas là pour ça. Et nous attristerions le Saint-Esprit à procéder de la mauvaise manière. Il fallait le dire. Tant nous sommes prompts à dégainer lorsqu'il s'agit de certains sujets. Si nous sommes là avec le profond désir d'obéir volontairement, par amour, à ce céleste impératif « Soyez remplis du Saint-Esprit », nous pouvons nous attendre à ce que Dieu, pardon de le dire ainsi, mette le paquet pour que nous ayons soif de marcher dans cette direction. C'était là ma première remarque pour donner la tonalité de cette convention. La deuxième remarque sera simplement pour dire que notre approche sera à la fois doctrinale et pratique. Nous ne pouvons pas dissocier les deux dimensions. Nous devons, en quelque sorte, pouvoir mettre sur ce que j'appellerais le squelette de la doctrine, de la chair, des muscles, Dieu donne la vie, mais il faut les deux, n'est-ce pas? Quand j'étais collégien, nous avions dans notre salle de sciences naturelles le célèbre Anatole. Parfois, nous lui serrions la main quand nous nous étions un peu habitués à lui. C'était un squelette qui avait l'art de faire frissonner certains de mes camarades. C'est pas très agréable, un squelette. Maintenant, si j'étais devant vous sans squelette, vous auriez une espèce d'amas visqueux au sol, guère plus agréable que le squelette dont nous venons de parler. Ce qui est merveilleux dans les Écritures, ça c'est une pédagogie divine incontournable, tellement sensible dans l'enseignement et la vie de Jésus, reprise par Paul et les autres, c'est qu'il y a toujours ce mariage fondamental, doctrine, pratique. Donc nous traverserons parfois des zones quelque peu difficiles, délicates, désertiques, on les rendra le plus simple possible, sans simplisme, mais pour que nous puissions ensuite, sur cette base-là, avoir une bonne pratique. C'était là la seconde de ces remarques préalables. Troisièmement, et je le redis ici, notre première étude de ce soir est volontairement une étude qui va considérer un certain nombre de préliminaires. C'est-à-dire que ce soir, je vais, de la part de Dieu, Bible en main, vous faire cinq recommandations capitales en vue d'une bonne approche du sujet. Les cinq doigts de la main. Cinq recommandations capitales en vue d'une bonne approche. Il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, c'est celles qui ont dominé ma pensée, que j'ai retenue et que j'ai étudiée au fil des décennies écoulées. Première de ces recommandations en préliminaire, il est important que nous ne vivions pas de la conviction des autres. C'est fondamental. Et c'est un problème qui croît de manière impressionnante et angoissante dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, pour ne parler que d'elle. De plus en plus, on fait l'économie d'une approche personnelle des Écritures parce qu'elles représentent un effort, une nécessité de persévérance, une recherche de priorité que l'on pratique, et il est bien plus facile simplement de vivre de ce que les autres disent, de la rumeur, des bruits qui courent, des livres qu'on lit et qu'on choisit plus facilement parmi ceux qui sont riches émotionnellement parlant, etc. Ce que nous disons là est très important. Le grand danger, c'est de vivre de la conviction des autres par recherche paresseuse de la facilité. Adopter la théorie la plus séduisante et finir même par courir de théorie en théorie, comme d'autres passent de mode en mode, en négligeant l'étude personnelle, la vérification sérieuse, des affirmations, je dirais même des affirmations de ceux qu'on pourrait considérer comme les meilleurs docteurs des Écritures. Finet, Doré, Murray, Wesley, Moody, tout cela sont en Y à la fin, mais aussi Chambers, Simpson, que nous évoquerons, Jesse Penn-Lewis, dont on a beaucoup parlé autour du réveil du Pays de Galles, etc., etc., ne sont pas la norme. Même Maurice Decker n'est pas la norme. Heureusement qu'il n'est pas la norme. La norme, ce sont les Écritures. Ceci avec tout le respect que nous devons aux serviteurs et aux servantes du Seigneur qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église. Ça ne veut pas dire que nous allons mépriser ce que le Saint-Esprit précisément a communiqué à d'autres dans le passé. Nous avons besoin de ce patrimoine qui parcourt la vie de l'Église de Jésus-Christ depuis bientôt 2000 ans, n'est-ce pas? Mais nous devons toujours revenir d'abord aux Écritures, et vous connaissez la formule, celle des croyants de Béret, qui vérifiaient l'enseignement de Paul lui-même, n'est-ce pas? Actes chapitre 17, versets 10 et 11, Actes 17, 10 et 11, alors que la situation est difficile pour Paul et Silas, il nous est dit qu'aussitôt, après Thessalonique, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient. Le terme du texte grec du Nouveau Testament est très intéressant à cet égard, puisque il évoque le travail du juge d'instruction qui constitue un dossier, qui interroge des suspects, des témoins, qui cherche toutes les pièces à conviction possibles, de manière à avoir un dossier solide en vue des séances de tribunal, voire de cour d'assises. Donc c'est un travail très très élaboré, c'est une enquête judiciaire où l'on passe toutes les preuves au peigne fin, c'est le même terme qui est utilisé dans le texte grec, dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 15, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, lorsqu'il nous est dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Juge de tout, c'est le même terme. C'est-à-dire qu'il pèse, il sous-pèse, il examine, il essaye de voir si l'apparence colle avec le fond, il fait une enquête pour se faire une opinion juste, pour avoir des convictions justes. Je me souviens, c'était un dimanche, le 26 septembre 1999, lors d'un culte dans lequel j'avais le bonheur d'être simplement participant assis sur ma chaise, l'introducteur de ce culte a proposé le chant d'un cantique, et ce cantique était une prière adressée au Saint-Esprit. À peine avait-on découvert que c'était une prière adressée au Saint-Esprit que quelqu'un d'interrompre l'introducteur pour lui faire remarquer, je cite exactement la phrase utilisée, « Daniel a dit dimanche dernier » qu'il ne fallait pas adresser des prières au Saint-Esprit. Il se trouve que Daniel est le prénom d'un prédicateur qui avait été invité pour une série de conférences le week-end précédent. Et aussitôt, l'introducteur a changé de proposition de cantique. Dans un premier temps, sur le fond, ça me réjouissait.
Nous y viendrons.
Mais j'étais tout de même gêné, parce que la référence de cette personne, je me souviens plus si c'était une sœur ou un frère, la référence de cette personne, c'était pas la Bible. C'était ce qu'avait dit le prédicateur. Et il se pourrait même, pardon de le dire ainsi, qu'elle ait depuis, sur une semaine, même oublié les raisons profondes pour lesquelles il n'est pas question d'adresser des prières au Saint-Esprit. Donc je ne vous encourage nullement, dimanche prochain, lors du culte, à procéder de cette manière et à vous lever pour dire « Maurice Decker a dit ». Ce qui est important, c'est de retenir ce que Dieu nous dit, ce que la Bible nous dit. Et sur le Saint-Esprit, c'est particulièrement important sur beaucoup d'autres thèmes, mais précisément à cause de toutes les modes, à cause de tous les livres très contradictoires. Une simple expérience personnelle, elle remonte à 40 ans en arrière. C'était en 1965. J'étais enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Je commençais même à me préparer pour le service de Dieu. J'étais dans une école préparatoire de théologie protestante à cette époque, qui a d'ailleurs été à Saint-Germain-en-Laye peu de temps avant, qui a déménagé sur Saint-Cyr au Mont-d'Or, là où se trouve l'école des commissaires de police actuellement. Et j'ai vécu à cette époque, en début 65, en janvier, un moment très difficile dans ma vie d'enfant de Dieu, parce qu'une de mes sœurs est subitement décédée à 28 ans, jeune maman. Et ça a été pour moi un moment de remise en question au niveau spirituel. Si bien que j'ai demandé à la direction de cette école dans laquelle je me préparais en vue de servir, si je pouvais m'absenter un certain temps pour faire le point dans ma vie, ce qui m'a été accordé. Et c'est dans cette période, à partir de là, que j'ai été confronté avec cette question du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous raconter les chemins par lesquels Dieu m'a fait passer pour que je sois confronté avec cette question dans mes contacts, etc. Et si bien que j'ai commencé à être troublé en découvrant les positions des uns, les positions des autres, en faisant mes propres expériences, jusqu'à ce que finalement je sois de plus en plus mal à l'aise, n'ayant plus de point de repère, des choses très mouvantes, et que, heureusement, le Seigneur dise clairement à mon cœur, « Maurice, ça suffit. Je t'ai donné ma parole. Alors, ouvre ma parole. » Et j'ai donc simplement pris la décision d'avoir un cahier vierge et d'ouvrir ma Bible au livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 1. Et de parcourir l'ensemble du territoire des Saintes Écritures jusqu'à Apocalypse 22, en relevant soigneusement dans ce cahier vierge tous les passages de la Bible qui parlaient du Saint-Esprit. Ça m'a pris du temps, mais vous savez, rien de tel demandé à mon épouse que de se mettre à copier les Écritures. Mon épouse en est largement au-delà de sa deuxième copie complète des Écritures. Et c'est riche, hein. Moi, je l'ai fait aussi pendant des années, rien de tel pour être imprégné du message des Écritures. Et donc je l'ai fait, puis ensuite, et c'était assez facile en 1965, je me suis procuré tout ce qui pouvait exister au plan largement évangélique en littérature sur le Saint-Esprit. Et vous savez, c'était une époque, c'est pourtant pas très loin, 40 ans, mais c'était une époque où on pouvait avoir dans sa bibliothèque tous les livres évangéliques de langue française. Moi, j'avais pratiquement, à peu de choses près, tous les livres évangéliques de langue française. Parce que nous étions d'une pauvreté criante dans ce domaine. Et donc, j'ai lu ces livres les uns l'un après l'autre à la lumière de ce que j'avais découvert dans mon étude systématique d'un bout à l'autre de la vie. Et ensuite, il m'a été très facile de faire des tas avec les livres. Parce que j'ai remarqué que il y avait des pédagogies différentes, il y avait des approches de la Bible différentes, et qu'il y avait toute une série de problématiques dans l'approche de la Bible. Il y avait ceux qui avaient considéré le thème du Saint-Esprit de l'alpha à l'oméga des Écritures, du début à la fin. Il y avait ceux qui avaient procédé de manière très arbitraire, il y avait ceux qui s'étaient arrêtés uniquement dans le Nouveau Testament, et ainsi de suite. Et à partir de là, je me suis rendu compte que tous ceux qui avaient une approche qui prenait en compte tout ce que Dieu nous a donné sur ce thème dans l'ensemble des Écritures, ceux-là se ressemblaient étrangement dans leur manière de comprendre ce que Dieu nous dit concernant le Saint-Esprit dans les Écritures. Et pour moi, ça a été une expérience remarquable. Je ne veux pas dire que durant les 40 années écoulées, je n'ai pas évolué. Nous le disons, nous sommes en présence de Dieu le Saint-Esprit. Cela veut dire que c'est un sujet sans fond et que nous ne serons jamais au bout de nos découvertes concernant la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Mais néanmoins, ce que Dieu veut pour nos vies, c'est que nous ayons sur les questions essentielles concernant le Saint-Esprit des positions claires. Parce que Dieu est clair sur ce que nous devons absolument croire. Et puis, à la frange de tout ce que nous devons croire, il y a tout un puits sans fond de choses que nous corrigeons au fur et à mesure de notre croissance avec Dieu. Et je suis, en tant que disciple de Jésus-Christ, celui qui se corrige continuellement à la lumière des Écritures au fur et à mesure que, mûrissant dans ma marche avec le Seigneur me montre que dans tel ou tel domaine, je n'ai pas toujours eu raison dans ce que je disais. Mais les questions essentielles sont claires. Et ça, c'est très important. Parce que ça nous évite après de nous laisser emporter à tout vent de doctrine par toutes les modes qui passent, qui trépassent et qui repassent. Voilà un premier point qui est très important. Deuxième recommandation capitale en vue d'une bonne approche de notre sujet. Je l'ai laissé entendre, transpirer de la première recommandation. Il importe que nous examinions ce thème de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit dans toute la Bible. Je ne suis pas l'inventeur de cette formule toute simple mais percutante, il faut la Bible entière pour faire un chrétien entier. Mais combien elle est vraie? Combien elle est vraie? Disons tout d'abord, et je ne pourrai pas développer certains aspects, je ne vais simplement que vous présenter ces recommandations que vous pouvez ensuite creuser, n'est-ce pas, pour les exploiter au maximum, mais je tiens à ce que dans cette soirée, nous puissions faire le tour de cet aspect pour entrer de plein pied demain matin dans notre thème central, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Deuxième remarque donc, examinez dans toute la Bible. En nous souvenant que l'Ancien Testament seul est insuffisant pour tirer des conclusions générales sur le Saint-Esprit. Oh, pour diverses raisons. Tout d'abord parce que le mot « esprit » n'apparaît que de façon sporadique à travers l'Ancien Testament. Deuxièmement, parce que le mode d'action ou les modes d'action du Saint-Esprit sont particuliers dans l'Ancien Testament. Vous avez des formulations qui sont différentes de celles qui apparaissent généralement dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit se saisit, il s'empare, il tombe sur, il est donné et retiré souverainement. Pensez à Saül et à tant d'autres personnages, à Samson. Il n'y a, si vous voulez, pas, manifestement pas, systématiquement, d'habitation permanente de quelqu'un par le Saint-Esprit. Mieux encore, le Saint-Esprit s'empare et utilise l'homme quel que soit l'état de son cœur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, dans sa souveraineté, Dieu utilise même la puissance des ténèbres pour accomplir sa volonté. On le voit à travers les Écritures, de toute évidence. Mais alors dans l'Ancien Testament, quand vous voyez par exemple la manière dont le Saint-Esprit, par la souveraine volonté de Dieu, s'empare de Balaam, celui qui est une fois appelé prophète dans le Nouveau Testament, mais qui en fait est un prophète malgré lui, comme Caïphe et d'autres, n'est-ce pas, qui vont prophétiser ou sans le savoir, ou à contre-cœur, en prophète mercenaire, mieux encore en médium, parce que manifestement le vocabulaire qui est utilisé, surtout dans le texte hébreu, au sujet de Balaam, nous montre que c'est quelqu'un qui avait une pratique occulte et que Dieu a souverainement utilisé malgré sa pratique occulte. Ça, c'est la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Donc là, le Saint-Esprit a été agissant parce que Dieu voulait clairement faire comprendre que les moyens enchanteurs, l'occultisme et toutes ces choses ne pouvaient avoir d'effet contre son peuple élu, ce qui fait que l'ennemi a utilisé un autre biais pour faire tomber Israël, ça a été le biais de l'adultère, de l'orgie, des relations tout à fait contre nature et contre Dieu, avec les Madianites et d'autres, n'est-ce pas? Le psaume 51, verset 13, qui contient cette prière d'humiliation de David, entre tout à fait dans ce cadre lorsqu'il dit « Ne me retire pas ton esprit ». Il appartient à cette approche de l'ancienne alliance. Les textes bibliques nous disent que les prophètes ont salué de loin avec joie le jour où l'esprit serait répandu avec abondance. Et nous avons de beaux textes dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, dans Joël 2, dans Ésaïe 44, nous avons plusieurs textes, mais qui sont orientés vers l'avenir, n'est-ce pas? Ils n'appartiennent pas à ces temps de l'Ancienne Alliance. Ces prophètes ne pouvaient formuler une doctrine de l'Esprit sous l'Ancienne Alliance, car la pleine révélation de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit était tributaire de sa venue. Et sa venue, nous le savons, se situe clairement à la première Pentecôte. Deuxièmement, les évangiles également sont insuffisants à eux seuls. Avec les évangiles, nous sommes dans une situation très particulière, liée à la présence de Jésus. Et quand, dans l'évangile selon Jean, par exemple, un certain nombre de textes évoquent le Saint-Esprit, il l'évoque dans l'avenir, n'est-ce pas? C'est du futur. Pensez à Jean 7, 37, 39, je pense que nous y reviendrons. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. De la même manière, l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit dans Jean 14 à 16 est tourné vers l'avenir, n'est-ce pas? Et ce sont des paroles solides qui n'appartiennent pas à un temps de transition. Ça, c'est la particularité de l'enseignement de Jésus, mais qui sont tournés vers l'avenir, qui auront leur accomplissement à partir de la Pentecôte. La plaque tournante sera la glorification de Jésus, c'est-à-dire l'ensemble que constitue sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et la Pentecôte. Donc aucune œuvre permettant l'habitation éternel de l'Esprit dans la vie du croyant ne pouvait avoir lieu avant cette glorification. C'est important ceci. Les disciples étaient donc dans une position d'attente, mais cette position d'attente était exceptionnelle parce qu'ils vivaient une situation exceptionnelle de transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ce qui n'est pas notre cas. Ensuite, les actes des apôtres sont insuffisants à eux seuls pour évoquer la question du Saint-Esprit. C'est vrai que Luc évoque souvent, nous y reviendrons, le Saint-Esprit, les actes du Saint-Esprit, mais il le fait dans un contexte bien particulier, unique dans l'histoire, le contexte de l'inauguration de l'Église, corps de Christ, marqué par des événements visibles, nécessaires, pour souligner, pour signaler la réalisation de la promesse. Acte chapitre 2, verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Il fallait qu'il y ait cette signature pour que tout le monde sache que c'était bien l'accomplissement d'une promesse ou de promesses répétées faites par le Seigneur Jésus. On peut considérer que l'Ancien Testament évoque essentiellement Dieu au milieu des siens. Nous avons une quantité de textes au début de l'Exode, du Lévitique en particulier. Les évangiles évoquent Jésus auprès des siens. Nous y reviendrons dans Jean 14, verset 17. Et puis, avec les actes, c'est l'Esprit, n'est-ce pas, qui vient habiter en eux. Au milieu, auprès d'eux, en eux. Voilà les trois étapes en ce qui concerne le Saint-Esprit dans l'ensemble des Écritures. Et cette inauguration d'une ère nouvelle, l'ère de l'Esprit, va comprendre trois phases, trois étapes. Acte 1-8 est très intéressant à cet égard. Le Seigneur Jésus ressuscité annonce la couleur, n'est-ce pas? Acte 1-8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Témoins chez les Juifs à Jérusalem, acte 2, chez les Samaritains, acte 8, chez les païens, acte 10, avec donc chaque fois une signature similaire, acte 2, acte 8, acte 10, et puis également cette situation unique des disciples de Jean-Baptiste à Éphèse au chapitre 19. Chaque étape est marquée d'événements particuliers destinés à signaler l'accomplissement extraordinaire, à vaincre des préjugés, à préserver l'unité de l'Église naissante. Il y a là des points de repère pour bien identifier l'événement, pour qu'on sache que l'Église de Jésus-Christ n'est pas seulement composée de Juifs, mais ensuite les Samaritains y entrent, et puis ensuite les païens, et puis ce régime particulier de ces disciples d'Éphèse. Dieu tient compte d'un contexte géographique, ethnique, culturel, particulier pour la manifestation de l'Esprit. Donc, souvenons-nous que les actes ne sont pas normatifs. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur tout ce qui est écrit concernant le Saint-Esprit, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, dans le livre des actes, parce qu'il raconte la fondation de l'Église dans ses trois étapes essentielles. On ne vit pas tous les jours à la mode d'une inauguration. Vous avez l'inauguration, puis ensuite on entre dans un style de vie qui est classique, qui est banal, qui est habituel à tous et à chacun. Puis quand il y a une nouvelle inauguration ailleurs, eh bien on a à nouveau quelque chose de particulier, d'événementiel. Donc les actes ne doivent jamais être dissociés des épîtres. Vous savez, nous touchons là à des choses essentielles.
que dans l'histoire de l'Église, mes amis, que de problèmes ont été liés au fait qu'on se soit uniquement appuyé sur le livre des Actes pour fonder des convictions. Quand vous pensez par exemple au domaine du fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ. Toutes les déviations qui ont eu lieu parce qu'on s'est dit, à partir de la Pentecôte, l'Église vit une communion tellement étroite qu'on ne se quitte plus, on est tout en commun, on vit ensemble du matin au soir, on partage tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au travers de l'histoire? On a créé comme ça une Église très très communautaire. Alors, vous avez eu des mouvements qui ont fait des dégâts énormes en Allemagne, par exemple. Tout simplement parce que on a pensé que la vie de l'Église normative, c'était abandonner ses biens, mettre tout en commun, vivre ensemble 24 heures sur 24. Non, c'est pas normatif. Ça appartient à une situation tout à fait particulière de l'Église naissante à Jérusalem, avec essentiellement des Juifs qui connaissaient bien l'Ancien Testament, d'ailleurs aussi, il faut le dire au passage, qui avaient donc une culture biblique incroyable, qui allaient être très rapidement persécutés, dépossédés de leurs biens, ce qui conduisait à ce type de solidarité, qui n'a été d'ailleurs que pour un temps, n'est-ce pas? Voilà un autre exemple dans un autre domaine. Les actes ne doivent jamais être dissociés des épîtres. Les épîtres, c'est l'enseignement. Les épîtres fixent la norme, la doctrine, pour tous les temps. Vous avez l'enseignement de Jésus, je dirais l'enseignement de Jésus. Il y a eu ici et là des pratiques de Jésus. Lorsque il dit à ses disciples, on souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit, il est évident que ce n'est pas une norme, c'est quelque chose qu'il pratique dans une situation donnée, ça n'appartient pas à l'enseignement pour l'Église de tous les temps. Ça correspond à cette situation très particulière, ça ne peut pas être encore la Pentecôte, hein. On sait qu'elle vient plus tard, donc il y a un sens particulier transitoire. Ce texte de Jean 20, 21 à peu près, hein, si mes souvenirs sont exacts. Donc l'enseignement de Jésus et celui des épîtres sont en plein accord. Il faut nous en souvenir. Les épîtres permettent de distinguer ce qui est normatif de ce qui est exceptionnel dans les actes. Par exemple, ni Jésus, ni les actes, ni les épîtres ne parlent d'un baptême du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit, seconde expérience accompagnée obligatoirement du parler en langue. Ni Jésus, ni les actes, ni les épîtres n'exhortent à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez lire votre Bible pendant 50 ans comme je l'ai fait jusqu'ici et vous ne verrez pas cela. Vous ne le verrez pas. Il y a une harmonie extraordinaire de tout le Nouveau Testament qui montre le baptême du Saint-Esprit comme correspondante à la régénération. Avec même cette particularité que l'apôtre Paul va chercher une préfiguration dans l'Ancien Testament pour bien montrer qu'il y a déjà dans l'Ancien Testament une cohérence sur laquelle il peut s'appuyer pour donner un certain enseignement. Je pense à 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et 2. Frères, 1 Corinthiens 10, 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et Paul est un excellent pédagogue. Il veut leur montrer qu'il y a préfiguration, qu'il y a correspondance, qu'on peut mieux comprendre le message qu'il va délivrer en se servant de ces préfigurations, parce que l'Ancien Testament est dans ses récits authentiques, qui n'ont rien de mythe, n'est-ce pas, est un livre d'illustration extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle pratiquement tous mes livres, sauf Barnabas, tu m'encourages, sont consacrés à l'Ancien Testament, et le livre que j'écris en ce moment est encore consacré ou en tout cas part de l'Ancien Testament. Donc, ils ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alors, baptisé, ça tout de suite, on comprend, hein. La nuée, c'est la direction, c'est ce qui conduit en réalité, et c'est une annonce de tout le et une démonstration de tout le ministère conducteur du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, et ils ont été baptisés dans la mer, et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces deux aspects sont simultanés. Il y a eu un démarrage de la nuée au moment où il démarrait, pour aller se faire coincer et traverser la mer, qui est magnifique comme illustration du baptême par immersion. Bon, ils n'y sont pas restés, n'est-ce pas, mais quelle image, n'est-ce pas, et ça continue. Ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée. Et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était Christ. J'y vois bien entendu la communion avec Dieu, tellement concrète, ce Dieu qui nourrit, ce Dieu qui abreuve, mais toute l'annonce dans le Nouveau Testament, de cette communion avec Dieu qui commence au moment de notre régénération et qui notamment est concrétisée et symbolisée et mémorisée par ce que nous appelons la scène. Il est question d'aliments, de breuvages. Et ce chapitre 10, à partir du verset 16, évoque la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-ce pas? C'est intéressant. Vous voyez ce parallélisme absolument extraordinaire sur ce plan-là. Conclusion à cette partie un peu plus longue que je viens d'évoquer le plus rapidement possible, examen dans toute la Bible. Quelqu'un l'a dit aussi, ce n'est pas de moi, si nous sortons un texte de son contexte, nous obtenons un prétexte. Et c'est Augustin d'Hippone, celui qu'on appelle Saint Augustin, qui a été cité par Pascal, il aurait dit « Qui veut donner le sens de l'Écriture et ne le prend point de l'Écriture est ennemi de l'Écriture. » J'ai sous les yeux un auteur plus récent qui dit les choses très bien, « Ne citer un verset que partiellement pour le faire concorder avec mes théories, c'est oublier les exigences de la vérité. Omettre volontairement de mentionner les autres versets qui traitent tous du même sujet parce qu'ils contredisent ma théorie, c'est infléchir la vérité. Nous n'avons pas le droit de manipuler les Écritures, de faire entrer les Écritures à notre manière, de les couler dans le moule de notre expérience. Importance donc du contexte, à commencer par le contexte le plus général. Là aussi, je cite un homme de Dieu, il est toujours important, écrit-il, lorsqu'on étudie la Bible, d'interpréter un texte dans son contexte. Plus le contexte est large, plus notre interprétation a des chances d'être correcte. Le plus large de tous les contextes est la Bible dans son exemple, dans son ensemble. Nous pensons que toute la Bible est la parole de Dieu écrite, donc puisque Dieu ne se contredit pas, nous croyons en outre que la Bible est une révélation divine cohérente. Nous ne devons jamais expliquer un passage de la Bible d'une manière qui le mette en contradiction avec un autre, mais au contraire interpréter chaque écrit à la lumière de toute l'Écriture. Voyez l'importance d'être des chrétiens essuie-glaces, hein ? C'est-à-dire de parcourir continuellement, faites ça mes amis, faites ça pendant 10 ans, mais avant 10 ans, vous allez en tirer un bénéfice extraordinaire. Plus vous le faites, plus vous entrez dans la pensée de Dieu et vous découvrez l'unité extraordinaire des Écritures. Au-delà de cette bonne quarantaine de rédacteurs qui écrivent sur 1600 années de temps, des époques et dans des contextes très différents, c'est extraordinaire de voir comment, en respectant leur personnalité, Dieu nous a donné un message d'une unité et d'une complémentarité fantastique. Moi qui lis beaucoup, j'ai jamais vu jusqu'à présent d'ouvrage aussi extraordinaire que la Bible, vu toute son histoire pour arriver jusqu'à nous. Écoutez, vous rendez compte, une petite bibliothèque qui s'est construite sur 1600 ans et qui aujourd'hui présente une telle cohérence, n'est-ce pas? C'est absolument extraordinaire. Troisième recommandation, nous l'avons aussi laissé entendre, le Saint-Esprit est personne divine. Il n'est pas une force, il n'est pas un fluide, il n'est pas une influence, il n'est pas matière, il n'est pas chose, il n'est pas quantité de choses, il n'est pas un objet à notre disposition. Et il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est vrai que ce pédagogue extraordinaire qu'est notre Dieu a utilisé un certain nombre d'images au sujet du Saint-Esprit qui pourraient le laisser croire. Et c'est là qu'une lecture arbitraire des Écritures, fragmentée, n'est-ce pas, risque de nous induire en erreur. Nous aurons tout au long de nos exposés l'occasion d'utiliser ces images. Mais il faudra toujours nous souvenir que derrière ces images se cache quand même la réalité de Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se manipule pas, il ne se prend pas par quantité, il ne vient pas par morceaux. Une personne ne se reçoit dans sa totalité, alors qu'un cadavre peut se recevoir par morceaux. Et nous avons des exemples particulièrement sanguinolents et épouvantables dans les Écritures, dans le livre des Juges. Hein, je crois que c'est Juge 19, si mes souvenirs sont exacts, avec cette concubine d'un Lévite qui est coupée en petits morceaux, bien sûr après sa mort, et tout ça part dans toutes les directions, n'est-ce pas? Et ça va produire une guerre civile qui va quasi détruire une tribu presque complète, n'est-ce pas? Mais c'est un cadavre. On ne peut pas se permettre de faire ceci avec le Saint-Esprit. Écoutez cette petite illustration authentique. Hein, ça a été envoyé à une revue. L'auteur dit, écrit ceci, « Le curé de ma paroisse avait le sens du spectacle. Le jour de la Pentecôte, il avait imaginé de faire lâcher un pigeon depuis le clocher au moment où sur le parvis de l'église, devant la procession des fidèles, il prononcerait la phrase « Esprit Saint descendez sur nous ». C'est le sacristain qui fut chargé de cette tâche. Il mit le pigeon dans un sac, monta dans le clocher et attendit. Il ne se produisit rien. Cependant, lorsque le curé prononça la phrase en question, quelques instants plus tard, on entendit simplement une voix venant du clocher dire « Il est étouffé ». Ça nous fait rire, et je le comprends parce que j'ai été le premier à en rire en découvrant l'anecdote. Le problème, c'est que il peut nous arriver de le faire, d'avoir ce type d'approche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit donc comme une personne en prenant la place que nous lui accordons, en agissant en fonction de la liberté que nous lui laissons. Un homme de Dieu a écrit ceci, « La plupart des images qui servent à représenter le Saint-Esprit sont fluides. » Intéressant. Le vent, le feu, l'huile et l'eau. Nous pouvons donc tenter de les saisir dans la main, mais elles sembleront toujours dire « Ne me retenez pas, ne me retenez pas ». Donc notre attitude doit-elle être celle de la soumission, du respect le plus profond, du langage le plus sobre et le mieux approprié à la personne de Dieu
lui-même.
Quatrième de ces cinq recommandations fondamentales. Et je veux parler ici de ce que j'appellerais l'humilité du Saint-Esprit. L'humilité du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit se plaît par excellence à glorifier la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous l'avons lu en partie dans Jean 16, versets 12 à 15, en introduction. Le Saint-Esprit aime mettre le Christ sur un piédestal. Il applique au cœur du croyant l'œuvre de Jésus-Christ. Il lui révèle et enseigne le Christ. Il le transforme progressivement à la ressemblance de Christ. Ce beau texte de la transformation de gloire en gloire, n'est-ce pas, dans nos vies par l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, 18. Un croyant conduit par le Saint-Esprit n'est donc pas centré sur le Saint-Esprit, mais sur Christ. Ça ne veut pas dire qu'il néglige le Saint-Esprit. Là, nous avons à nous repentir. Dans un certain nombre de nos églises évangéliques, d'ailleurs pas seulement en France, c'est notre négligence à aborder clairement, franchement, le thème du Saint-Esprit, y compris dans le domaine des dons, du baptême, du fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est notre négligence qui a aussi beaucoup fait dans le développement de manières de penser qui sont regrettables, qui sont parfois très troublantes, et qui ont parfois même été adoptées dans notre milieu, dirions-nous. Parce que si dans nos églises on n'aborde pas ces thèmes clairement, bien, vous savez, le croyant qui était assoiffé, qui a vraiment soif d'avancer avec le Seigneur, il veut rien manquer. Et ça veut dire que si on ne lui donne pas dans l'Église l'enseignement sur ces thèmes, il sera aiguillonné pour aller chercher l'enseignement ailleurs. Et pas toujours avec le discernement suffisant pour être un bon Béréen et distinguer la vérité de l'erreur. Je dis souvent, si dans l'Église de Jésus-Christ on est incapable de parler sobrement, sainement, selon les Écritures, de sexualité, ne nous étonnons pas que nos enfants aillent chercher rapidement ailleurs, et quand on sait à quelle source à ce moment-là ils vont, ce que nous ne leur aurons pas apporté comme si la Bible n'en parlait pas. Alors certes, il y a la manière. Il y a des choses à dire, il y a le moment, la manière de dire les choses, mais il y a un enseignement. Et nous devons vraiment avoir soif de partager ensemble tout le conseil de Dieu, en sachant que de toute manière nous ne serons jamais au bout de notre étude, comme nous le disions tout à l'heure en introduction. J'ai ici un texte que j'apprécie beaucoup, je vous le livre tel quel, c'est une illustration remarquable de la relation entre le Fils, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Je me souviens, écrit l'auteur, qu'un soir d'hiver, en arrivant à une réunion où je devais parler sur le texte « Il me glorifiera » Jean 16, 14, j'aperçus le bâtiment fortement éclairé au détour d'une rue. C'était justement l'illustration qu'il me fallait. Quand l'éclairage est bien conçu, les projecteurs sont placés de telle manière qu'on ne les voit pas. Le spectateur n'est pas censé découvrir d'où vient la lumière. En revanche, son regard doit se porter sur l'édifice baigné de lumière. Le but d'un tel éclairage est de rendre visible ce qui autrement n'apparaîtrait pas, étant donné l'obscurité ambiante. C'est aussi de faire ressortir la beauté de la construction, en mettant en relief ses détails pour accrocher l'attention du visiteur. C'est l'illustration parfaite du rôle qui incombe à l'Esprit dans la Nouvelle Alliance. Il est, pour ainsi dire, le projecteur caché dont le faisceau lumineux éclaire le Sauveur. Nous pouvons également imaginer l'Esprit derrière nous, braquant sa torche lumineuse par-dessus notre épaule, vers Jésus, debout devant nous. L'Esprit ne dit jamais « Regardez-moi, écoutez-moi, venez à moi, connaissez-moi », mais toujours « Regardez-le et contemplez sa gloire, écoutez-le et prêtez attention à sa parole, allez à lui, recevez sa vie, connaissez-le et goûtez le don de sa joie et de sa paix ». Le Saint-Esprit est en quelque sorte le marieur céleste, dont le rôle consiste à nous unir à Christ et à veiller à ce que nous lui demeurions attachés. En tant que deuxième paraclet, ça c'est un terme théologique dont nous parlerons assez rapidement d'ailleurs demain, le deuxième consolateur, c'est l'appellation que Jésus donne au Saint-Esprit à cause d'un ministère particulier dans Jean 14 à 16, mais nous en reparlerons. En tant que deuxième paraclet, l'Esprit nous conduit toujours vers Jésus, le paraclet original, puisqu'une fois dans les Écritures, Jésus est aussi appelé paraclet, mais on en parlera. L'Esprit nous conduit toujours vers Jésus, le paraclet original, qui s'approche lui-même de nous par le deuxième paraclet qu'il nous a envoyé. Ainsi, en nous rendant capables de discerner le premier paraclet, c'est-à-dire le Christ, et en nous incitant à tendre les mains vers lui au moment où il quitte son trône pour venir vers nous, le Saint-Esprit glorifie Christ conformément à la parole même de Christ. Bon, nous pourrions prendre tant et tant d'autres exemples. Quelqu'un écrit ceci, et c'est tout simple, n'est-ce pas? Pour savoir si une personne dit vrai en déclarant être inspirée et remplie du Saint-Esprit, il suffit de voir si elle honore le Seigneur Jésus, si elle dirige l'attention d'autrui vers lui, si elle cherche à le glorifier. C'est là un bon test d'authenticité. Plusieurs auteurs récents ont illustré ce fait, voyez, en comparant le ministère du Saint-Esprit à un projecteur. Il avait les mêmes sources que moi, hein. Un bon projecteur cherche à illuminer un monument ou un édifice, tout en se faisant aussi discret que possible. C'est justement le rôle du Saint-Esprit, rendre témoignage à Jésus-Christ tout en restant lui-même caché. Quand je retravaillais tout ce thème, je me suis souvenu que j'avais dans mes archives, mais remontant assez loin dans les années, un petit document que j'ai ici qui m'est très précieux, donc je l'ai longuement recherché dans ces archives. C'est un document qui m'a été remis en 1987. Vous voyez, c'est tout petit, ça ressemble un peu à une diapositive, c'est un microfilm. Et c'est un microfilm en plus assez particulier, puisqu'il est constellé de rangées très très denses de petits rectangles qui apparaissent gris sombre, comme ça, à première lecture. C'est la Bible tout entière. Elle est là. Et maintenant, j'ai beau regarder là la lumière, je pourrais avoir les meilleures lunettes du monde. J'ai la Bible. Mais je ne peux pas la lire. Alors moi, je peux vous assurer que c'est la Bible. Parce que il faut des instruments adaptés. Et dans ces instruments adaptés, on peut déjà, même en se servant d'un projecteur de diapositive qui grossit sensiblement, on peut se rendre compte que c'est la Bible. Si vous avez un microscope très puissant, vous allez alors pouvoir vous régaler. J'ai d'ailleurs tous les paramètres sous les yeux, donc c'était à l'époque la plus petite Bible du monde. Réduite 250 fois, voyez, c'est une version, la version anglaise intéressante, la King James, et elle est donc comme un timbre-poste, 3 x 4 cm, elle contient donc les 1189 chapitres et les 31 173 versets, 773 746 mots, tout ça est un peu discutable, parce que d'une version à l'autre, par rapport à l'original, ça peut changer un peu, hein. Ça ne veut pas dire que ça nous permet de mettre en doute les Écritures, mais il y a une richesse dans la traduction des Écritures qui fait qu'on peut, nous le verrons d'ailleurs demain matin, utiliser dans certains cas un mot dans un paquet de 20 ou 30, parce que les mots dans la langue grecque, et parfois dans l'hébreu, mais dans le grec en particulier, ont une variété de sens absolument incroyable, en fonction de prépositions, etc. Mais là, je n'entre pas dans ces détails. Mais voilà, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du microscope, qui va me permettre de lire et de comprendre. Et pourtant, n'est-ce pas, je vais avoir en face de moi, ou sous le microscope, ceci, c'est pas mon microscope qui m'intéresse. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr que nous devons être intéressés par le Saint-Esprit, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il m'oriente, lui, vers une découverte absolument extraordinaire. C'est la beauté et cette humilité extraordinaire du Saint-Esprit, et c'est là, disons-le, que se situe cette question de la prière au Saint-Esprit. C'est précisément à cause de cette vocation du Saint-Esprit que vous n'avez pas un seul passage dans les Écritures qui soit de manière claire une prière adressée au Saint-Esprit. Alors on m'a parfois avancé cet argument d'Ézéchiel 37, 9, 10, ce prophète Ézéchiel qui, sans doute dans une vision, est placé dans une vallée d'ossements, n'est-ce pas, et qui, nous allons même prendre le texte, Ézéchiel 37, 9 et 10, c'est Dieu qui s'adresse à lui et qui lui dit, verset 9, « Prophétise, parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dise à l'Esprit. » Alors certains pensent que ce sera un esprit avec un E minuscule. Le problème en hébreu ne se situe pas là, c'est qu'il y a un article défini en hébreu qui laisse bien entendre qu'il s'agit du Saint-Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une prière. Tout d'abord, il s'agit, presque à coup sûr, d'une vision. Il s'agit d'un texte prophétique. Et il s'agit de surcroît d'un ordre donné par l'Éternel à l'Esprit, simplement par le canal du prophète. Le prophète ne sert que de canal, il communique l'ordre que Dieu a donné. Donc tout nous éloigne de ce que nous appelons dans les Écritures la prière, sous quelque forme qu'elle soit. Donc nous n'avons pas de texte dans les Écritures qui soit une prière adressée à l'Esprit. Alors, ce que je voudrais dire à partir de là, c'est que la règle la plus simple, bien entendu, c'est que quand quelque chose n'est pas dans les Écritures, eh bien, on ne le fait pas. Maintenant, il y a une position extrême que je redoute. C'est celle qui consiste, parce que on est dans une réunion, on n'est pas forcément dans son église, et puis il se trouve que on chante une prière au Saint-Esprit. Il y en a, sur les ailes de la foi, dans quantité d'autres recueils, il y a des prières au Saint-Esprit. Et on se choque, on devient parfois dur, on devient parfois cassant, ils sont en train de faire... Écoutez, je crois que là, il faut garder un peu de bon sens. Et quand même se souvenir qu'il n'y a pas un seul texte dans les Écritures qui interdise de le faire. S'il y a un silence dans les Écritures, s'il y a absence de prière au Saint-Esprit, c'est simplement parce que Dieu connaît notre cœur et il sait combien nous sommes tentés d'accorder au Saint-Esprit la place qui n'est pas la sienne dans cette stratégie qui appartient à la complémentarité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans leur égalité parfaite, n'est-ce pas? Il y a égalité d'essence parfaite, mais chacun a son rôle. Et puis il y a aussi autorité, subordination, etc. C'est un grand thème, n'est-ce pas? Mais alors, simplement, soyons charitables. lorsqu'il arrive de temps à autre qu'on chante un cantique parfaitement honorable par ailleurs, qui exprime le désir de vivre dans l'obéissance au Seigneur, courbe-moi, sonde-moi, je pense par exemple à ce petit cantique, n'allons pas en faire toute une histoire, les amis. Ça, c'est un peu notre problème. Ça, ce sont nos extrémismes. Gardons-nous de la tendance de faire des habitudes, n'est-ce pas? Mais soyons quand même pleins de courtoisie et de charité, de véritable amour à l'endroit de ceux qui, dans ce domaine, ne font pas exactement comme cela. Je crois que ça, c'est important. Et nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit par certaines attitudes à cet égard. Si, par contre, l'interdiction était claire dans les Écritures, ce serait différent. Mais il y a volontairement un silence à cet égard à cause du danger, n'est-ce pas? Et nous pouvons nous garder de ce danger à partir du moment où nous le savons, et donc ne pas considérer comme un péché terrible que le fait, même un péché tout court, le fait de s'adresser à lui. Il est quand même Dieu, hein? Donc je suis sûr qu'il ne s'offusquera pas que nous nous adressions parfois dans un beau cantique de cette manière. C'est simplement, veillons à toujours faire la distinction entre l'essentiel et l'accessoire. Hein? Dans Philippiens 1, il est dit que nous devons grandir en amour dans le discernement de l'essentiel. Apprendre à discerner ce pourquoi il faut absolument polémiquer au sens biblique, c'est-à-dire avoir des positions, pas défendre la parole de Dieu, elle se défend elle-même. Mais vraiment, prendre position, n'est-ce pas? Et puis, tous ces domaines où nous avons besoin de relations respectueuses les uns à l'égard des autres. Quatrièmement, on est presque au bout, là, parce que je ne veux pas dépasser les heures pour l'enregistrement. Donc, nous venons de voir le quatrièmement, cinquièmement, c'est mieux encore, cinquièmement, le Saint-Esprit est inspirateur, en quelque sorte, et enseignant des Écritures. Saint-Esprit est inspirateur et enseignant des Écritures. Nous avons ce beau texte d'1 Corinthiens 2, 10 et 11. 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Il est question de ces choses que l'œil n'a point vues, verset 9, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Seul, il connaît le cœur du Père, il connaît la pensée du Père, il connaît les desseins du Père. Il est, nous disent les Écritures, vous savez, esprit et souffle, c'est le même mot, hein, pneuma en grec, tout comme ruach en hébreu, ça veut dire les deux choses, y compris d'ailleurs l'équivalent latin spiritus, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la même chose. Et c'est très beau parce que s'il est le souffle de Dieu, il rend la parole audible. Vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui vient de subir une trachéotomie. Il veut parler, vous n'entendez pas, il n'a pas souffle. Et vous vous souvenez, je ne fais référence qu'à cet aspect-là, du pape défunt, et de cette vision pathétique d'un homme qui essayait de parler, le souffle n'était pas là. Et je trouve que c'est si beau, n'est-ce pas, de réaliser que notre parole n'est audible que par le souffle. La parole de Dieu n'est audible que par le souffle de Dieu, en quelque sorte, qu'est le Saint-Esprit. Et c'est là que le texte de 2 Timothée 3.16, qui vaudrait une étude à lui tout seul, hein, 2 Timothée 3.16, ça, c'est ce que j'appelle la Marseillaise sur les Écritures, 2 Timothée 3.16, toute Écriture ou toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé, adapté, prêt pour toute bonne œuvre. Toute l'Écriture est inspirée. Et ça, c'est un peu problématique. C'est un problème de traduction qui nous vient de la Vulgate de Jérôme par le biais de toutes sortes d'autres chemins, de versions. Et en fait, le texte grec, si on voulait vraiment le traduire comme il faut à la française, dirait ceci, toute écriture est spirée par Dieu ou respirée par Dieu. Respirée par Dieu, littéralement. C'est un seul mot en grec, théopneustos, respiré par Dieu. En quelque sorte, ce que Paul dit à Timothée, c'est que l'écriture est la respiration de Dieu, elle est le résultat du souffle de Dieu, n'est-ce pas? Intéressant. C'est intéressant, c'est très très important. Puis ensuite, vous avez cet autre texte très important dans 1 Corinthiens 2 que nous avons pris tout à l'heure. Je ne sais pas si nous sommes allés jusque-là. Oui, verset 12, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc seul le Saint-Esprit est capable d'interpréter la pensée de Dieu mise en mots pour le croyant. Vous savez, c'est extraordinaire ce que nous vivons ce soir. Nous faisons les choses tellement par habitude, vous et moi, je ne me mets pas hors du lot, que nous ne nous rendons pas compte qu'en réalité, par exemple, tout ce que je suis en train de partager avec vous, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit. Je serais parfaitement incapable de vous dire ces choses si le Saint-Esprit n'avait illuminé sa parole dans mon propre cœur. Et je peux vous assurer que pratiquement chaque fois que je prends la parole, dans ma prière, je dis, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. C'est fondamental. Chaque fois que vous asseyez le matin, dans la journée ou le soir, pour méditer, lire, étudier un texte des Écritures, rappelez-vous ça. Que le Saint-Esprit rend la parole de Dieu audible, compréhensible, il l'interprète, il l'applique à nos cœurs. C'est extraordinaire ce ministère permanent du Saint-Esprit dans ce domaine et dans tant d'autres en notre faveur. La parole est inaudible si elle n'est pas portée par le souffle. Alors il a inspiré des mots, des locutions, c'est-à-dire des ensembles de mots, des expressions. Il leur a donné un sens, un contenu précis, à nous de rechercher ce sens dans l'ensemble des Écritures et de le respecter. Ça, c'est aussi important. Quand je pense à ce que l'on a fait en déviation, en modifiant le sens d'expression des Écritures, suivant le milieu dans lequel vous êtes, le terme confession n'a pas le même sens. Le terme repentance n'a pas le même sens. Le terme baptême n'a pas le même sens. Le terme conversion n'a pas le même sens. Le terme foi n'a pas le même sens. Que de drames liés au refus d'accepter humblement le sens que le Saint-Esprit donne. Le terme évêque, qui est dans les Écritures, qui est incontournable, quand on voit le sens qu'il a pris, n'est-ce pas? Et nous pourrions prendre des dizaines et des dizaines de mots. Et c'est d'ailleurs là un des problèmes qui crée déviation dans nos vies. Parce qu'il nous arrive d'entendre des prédications, ce qu'on appelle des homélies ou des sermons, y compris par le prêtre du haut de la chaire. Quand le prêtre arrive à la fin de son homélie, nous disons, mais il a mieux prêché que certains évangéliques. Sauf que, il utilise les mêmes mots que nous, mais il ne leur donne pas le même sens. Et c'est comme cela que On est allé aussi vers une unité factice, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle l'œcuménisme non biblique, parce qu'on pense finalement qu'on a des points communs beaucoup plus importants, y compris dans le domaine de la doctrine, mais ça c'est le piège des mots. Le Saint-Esprit donne aux mots le sens que Dieu le Père leur donne. Et nous n'avons pas le droit d'intervenir pour faire de ce sens autre chose que celui qui est donné par le Saint-Esprit. Attention aussi à l'invention d'un langage de l'expérience qui ne correspond pas forcément à la doctrine biblique. On parle de seconde expérience, on parle de revêtement de puissance, on parle de plein évangile, on parle de seconde bénédiction. Restons simplement dans les Écritures. Et nous devons regarder si nous n'avons pas notre propre vocabulaire, mes amis, qui est le vocabulaire de notre propre tradition. Parce que ça vient vite, hein. Ça vient vite dans nos vies, ce vocabulaire spécial à nous, qui finit par être en décalage avec la pensée de Dieu dans les Écritures. J'ai sous les yeux cette petite anecdote succulente, un homme de Dieu qui raconte, qui est auprès du Seigneur depuis peu de temps d'ailleurs, « Quand j'étais adolescent, mon pasteur nous rapporta cet incident. Il marchait dans la rue principale de notre ville et rencontra un autre pasteur. Son fils de 8 ans l'accompagnait. Ils conversèrent et l'autre pasteur lui dit, « Vous savez, frère, j'ai reçu la seconde bénédiction. La vieille nature pécheresse a été éradiquée, je ne pêche plus. » Plus depuis 3 ans désormais. Et vous savez, un petit garçon, c'est toujours un petit garçon. Et donc, le petit garçon de 8 ans, le fils, lève les yeux vers le pasteur de celui qui parle en lui disant, « Surtout, monsieur, ne le croyez jamais. » Eh oui, parce qu'à la maison, ça devait être autre chose. Donc, souvenons-nous aussi que l'action du Saint-Esprit n'est jamais en contradiction avec la parole qu'il a inspirée. Ça aussi, c'est important. Lorsque le Saint-Esprit nous parle et nous conduit à l'action, il est en harmonie avec tout ce qu'il dit dans la Bible. Alors, c'est intéressant, j'ai ici un texte issu d'un livre remarquable à bien des égards, et l'auteur écrit ceci, « Certains des enfants de Dieu ont choisi d'insister sur l'esprit, d'autres brandissent plutôt l'écriture. Les premiers optent pour la chaleur sans la lumière, les seconds pour la lumière sans la chaleur. Ne séparons pas ce que Dieu lui-même a uni. Il n'y a pas lieu d'établir une prééminence entre l'esprit et la parole. Les chrétiens doivent rechercher les deux dans une unité indivisible. » D'une façon encore plus précise, recherchons l'esprit du Dieu vivant à l'œuvre dans la parole écrite de Dieu, avec elle et par elle. Alors ceci, et nous allons terminer là-dessus, ceci mérite quand même une dernière petite remarque. Souvenons-nous que notre croissance chrétienne peut être marquée par des tournants particuliers, par des moments inoubliables. Elle peut être marquée d'expériences bouleversantes, en accord avec les Écritures. Ces expériences peuvent correspondre souvent à une capitulation, à un acte de consécration, à une révélation particulière, à une compréhension nouvelle et plus profonde. Ce sont des jalons, des revêtements de puissance pour un service particulier. Nous aurons l'occasion d'en parler effectivement. Au cœur de ce terme, de ce thème, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors simplement, à cet égard, veillons à ne pas mettre une étiquette particulière sur ces expériences et à ne pas en faire une norme. Après une première expérience, il y en aura encore des dizaines, il faut le souhaiter. Et puis il y aura aussi les expériences d'absence d'expérience. Et celles-là, on les oublie. Au moins vite, parce que quand vous passez par le désert, et que ça dure parfois pendant un bon bout de temps,
et que vous avez même fait une introspection morbide pour essayer de trouver des fautes que vous n'avez jamais commises parce que vous ne comprenez pas pourquoi, finalement, Dieu vous laisse dans ce silence absolument incroyable, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que, finalement, un jour, Dieu finisse par rompre le silence pour vous dire, tu vois, il faut que tu apprennes à marcher en te confiant simplement dans ma parole. Les déserts, qui sont aussi des expériences, avec une absence d'expérience, on se comprend, n'est-ce pas? Combien ils sont importants, même s'ils sont parfois redoutables. Veillez à ne pas imposer aux autres le même cheminement, mais simplement leur montrer ce que dit la Bible, le reste appartenant à l'entière souveraineté de Dieu. Dieu n'agit jamais de manière stéréotypée. Quelqu'un a rapporté la savoureuse suite. Je lui ai demandé et instantanément j'ai vu clair. Minute, dit le second. Cela n'a pas pu se passer si vite. Il a dû d'abord te mettre de la boue sur les yeux et t'envoyer te laver, etc. Et voilà, conclut celui qui raconte l'histoire, comment sont nées les deux premières dénominations, les boueux et les anti-boueux. Nous voulons prier.
Seigneur notre Dieu, nous considérons comme un immense privilège ce fait de pouvoir communiquer et communiquer au sujet de ta personne, de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit, de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous te remercions de tout notre cœur de nous avoir donné, au-delà de la parole faite chair, la parole écrite, et nous te bénissons de ce qu'un jour cette parole soit devenue particulièrement audible à cause du souffle, à cause du travail de l'Esprit. Merci parce qu'il est l'interprète parfait, remarquable. Nous sommes assurés d'une juste compréhension lorsque nous nous plaçons sous ton autorité, sous celle de ton Esprit et sous celle de ton Fils bien-aimé. Seigneur, merci, merci de tout notre cœur pour cette soirée que tu nous as accordée. Nous te demandons vraiment simplement qu'elle soit féconde, non seulement dans le cadre de cette convention, mais pour chacune de nos journées à venir, chaque fois que nous voulons nous forger des vraies convictions qui correspondent à ta pensée, à ton cœur, à ta volonté, au véritable contenu de ta parole. Nous t'aimons, nous voulons te le redire ce soir de tout notre cœur, dans le nom de Jésus-Christ, par le ministère du Saint-Esprit. Amen.